Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'académicien et juriste Roland Drago. Bonjour Monsieur Drago.
Bonjour madame.
Monsieur Drago, nous vous recevons aujourd'hui en tant que président du tribunal suprême de la principauté de Monaco. Vous assumez ces fonctions depuis 1998. Vous étiez d'abord, je le rappelle, juge en 1975, puis vice-président du tribunal suprême. Première question, monsieur Drago, quels sont vos liens avec la principauté de Monaco ?
Eh bien, mes liens sont devenus importants pour la bonne raison que, comme vous venez de l'indiquer, je suis magistrat dans la principauté depuis 1975, ça remonte quand même très loin maintenant, mais ce sont des liens qui sont des liens factuels, car je dois dire que je préside donc la plus haute juridiction monégasque, puisque c'est la seule qui est prévue par la Constitution, et à Monaco, le principe de séparation des pouvoirs est respecté, selon moi, de façon extrêmement forte, de telle manière que mes relations avec le souverain d'une part et le gouvernement ou les autres institutions monégasques d'autre part est extrêmement réduit et limité à des relations de type diplomatique et uniquement, ou disons même mondain, et sans aucune relation concernant mes fonctions. Oui. Jamais. Et ça, c'est une chose quand même à indiquer. Jamais je n'ai pu avoir à discuter de quoi que ce soit concernant les problèmes que j'avais à résoudre avec les autorités monégasques.
Donc nous n'allons pas parler aujourd'hui du changement du prince, du passage du prince Régnier au prince Albert II. Ça ne change rien pour vos fonctions ?
Absolument rien, absolument rien. Je vous le dis, le tribunal est composé de 5 juges, comme nous allons le voir. Et il n'a aucune relation avec les instances administratives ou politiques monégasques.
Donc séparation des pouvoirs. Que cela signifie-t-il d'être président pour vous, Monsieur Drago ? Est-ce que cela veut dire que vous assistez à toutes les séances ? Y a-t-il des fonctions spécifiques liées au fait d'être président ?
Alors bien entendu, c'est une fonction qui implique l'administration du tribunal, mais c'est un tribunal qui est quand même assez réduit et une administration qui est quand même légère. Ça veut dire que j'ai des relations avec les services judiciaires qui sont au palais de justice de Monaco pour l'organisation des séances, pour les dates, pour la gestion des documents. Mais ceci dit, le fait d'être président du tribunal signifie, comme dans toute juridiction je suppose, d'organiser les débats et de présider les audiences, et ensuite dans les audiences d'avoir la police de la séance, de donner la parole aux partis, aux avocats et au ministère public, et ensuite de diriger le débat qui se déroule dans la chambre du conseil au moment où les décisions sont prises. Alors comme toujours, un président a des pouvoirs très particuliers quand il s'agit par exemple de prendre des ordonnances qui décident des sursis ou des ordonnances qui décident des prolongations de litiges éventuellement, mais c'est tout. Autrement dit, le président n'a pas de position particulière sauf d'organiser les débats et il préside toutes les sessions. Les sessions sont à peu près au nombre de 3 ou éventuellement 4 dans l'année. Elles durent 2, 3, 4 jours selon le cas. Il faut bien dire que Monaco est quand même un petit État et que par conséquent, les litiges qui ressortissent à la compétence du tribunal suprême ne sont pas très nombreux. Pendant un assez grand nombre d'années, puisque vous avez indiqué la date à laquelle j'y étais entré, il y avait 3, 4, 5 litiges par an, vous le voyez, ça pouvait sembler insignifiant. Actuellement, le nombre des litiges a augmenté de façon assez sensible. Dans l'année 2005 qui se termine, nous aurons eu 25 recours qui ont été portés devant nous.
Oui, donc
et
forte
je
augmentation.
Peux me faire représenter éventuellement, si je suis indisponible, par un vice-président.
D'accord, donc c'est une occupation qui prend beaucoup de votre temps, j'imagine. Venons-en peut-être à la spécificité de ce tribunal suprême de la Principauté de Monaco. J'ai appris dans un article que vous avez rédigé sur la doctrine du tribunal suprême que cette juridiction est la plus ancienne, le plus ancien tribunal constitutionnel du monde. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous participez au comité de rédaction de la Revue internationale de droit comparé. Quelles sont par exemple les différences avec la France ?
Oh, avec la France, les différences sont très sensibles et elles sont très sensibles aussi avec d'autres pays, sauf les États-Unis, si vous voulez que tout à l'heure on en dise un mot, ne fût-ce que pour faire la comparaison. Le tribunal suprême de Monaco a été créé par la Constitution de 1911, qui était due au prince Albert Ier, dont on reparle actuellement, non seulement parce que son successeur, Albert II, vient de prendre possession de ses pouvoirs, mais aussi parce qu'il a été, comme vous le savez, un grand navigateur et il a joué un rôle important. Et il a donc été à l'origine de cette Constitution de 1911, qui a été octroyée, c'est-à-dire qui, à l'époque, a permis de constituer une démocratie dans la principauté, dans la principauté de Monaco, et c'est là qu'a été créé ce tribunal suprême avec des fonctions quasi comparables à celles qu'il a aujourd'hui, même s'il y a eu une révision importante en 1962 de cette constitution de 1911. Et à l'époque, il était la seule juridiction constitutionnelle pouvant exister dans le monde. Il y avait eu un petit précédent en Autriche-Hongrie, à l'époque des Habsbourg, mais qui n'était pas très significatif. Et en dehors de cela, il n'y avait que la situation de la Cour suprême des États-Unis. Mais la Cour suprême des États-Unis, depuis sa célèbre décision de 1802, Marbury-Madison, est une juridiction qui accueille l'exception d'inconstitutionnalité dans les procédures ordinaires, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un véritable juge constitutionnel.
Donc pour revenir aux différences avec la France, en France, création du Conseil constitutionnel en 1958, donc différence historique, et différence sur le fond aussi.
Vous m'avez posé la question, excusez-moi, en effet, il faut que je compare surtout avec la France parce que c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a des relations qui sont très significatives entre la principauté et la France. Il est vrai, la France a toujours été hostile au contrôle de constitutionnalité. Elle appliquait la doctrine de Rousseau qui disait « le législateur ne peut jamais se tromper ». Et par conséquent, il y a eu des tentatives à toutes époques, au XIXe et au XXe siècle, pour créer une juridiction constitutionnelle. Et ces tentatives n'ont jamais abouti parce que il y avait cette sorte de suprématie de la loi qui existait en France et qui n'existe plus. Il est vrai qu'en 1958, on a réussi à mettre en place le Conseil constitutionnel. À l'origine, le Conseil constitutionnel en France était surtout chargé, pensait-on, d'après la rédaction même de la Constitution de 1958, de charger de régler les conflits entre le Parlement et le gouvernement à propos de la délimitation du domaine législatif par rapport au domaine réglementaire qui appartient au gouvernement. Il ne devait, semblait-il, et avait-on dit, régler que ce type de litige. Et puis, en 1971, à propos de la liberté d'association, il s'est affirmé comme juge constitutionnel et depuis il a développé, et de façon très large et très heureuse à mon avis, ce contrôle de constitutionnalité des lois en France, ce pays qui n'en avait jamais voulu et qui finalement l'a accepté avec une sorte de satisfaction.
Alors une des grandes différences entre la France et la principauté de Monaco, c'est qu'à Monaco, le tribunal suprême cumule les fonctions de juge constitutionnel et de juge administratif. Quelle différence est-ce que ça fait ?
C'est quand même une différence et c'est aussi là un problème unique dans le monde, à ma connaissance, mais c'est explicable, c'est une économie de moyens, simplement. On peut dire que c'est une économie de moyens parce que il y a quand même 6 000 citoyens monégasques, 30 000 habitants et par conséquent, on ne peut pas imaginer que ce tribunal aura beaucoup d'affaires. Donc on a dû, je pense, imaginer à l'origine que cette juridiction aurait ces deux compétences pour des raisons qui tiennent simplement à l'étroitesse du territoire.
Ah, quelque chose de
donc
pragmatique.
Il est juge constitutionnel et juge administratif à la fois, avec, il faut le dire, une procédure quasiment identique dans les deux cas, c'est-à-dire que, aussi bien en matière constitutionnelle qu'en matière administrative, toute personne intéressée a la possibilité d'intenter un recours devant lui, alors qu'en France, vous le savez, il y a des procédés particuliers de transit par les actions de 60 députés ou 60 sénateurs, etc.
Ça, c'est une spécificité de la principauté de Monaco qui est pratiquement unique au monde, qu'on puisse saisir le Conseil constitutionnel comme individu, que la saisine se fasse aussi directement.
Ça peut être des individus, ça peut être des sociétés, des associations. En tout cas, ça peut être aussi bien des monégasques que des étrangers. La condition pour faire un recours recevable, c'est celle qui existe au Conseil d'État français depuis longtemps, mais pour les recours en matière administrative, c'est d'avoir un intérêt à agir devant la juridiction pour obtenir satisfaction.
Qu'est-ce que ça change sur le fond dans les recours que vous voyez passer au tribunal suprême ? Est-ce que, du coup, les affaires qui sont jugées par le Conseil constitutionnel en France et les affaires qui sont traitées par le tribunal suprême sont très différentes ?
C'est une question très importante que vous posez et il faut y répondre de façon un peu compliquée. Quand le recours est aussi largement ouvert qu'il l'est à Monaco, il y a un risque que, même pour des raisons purement fantaisistes, les gens fassent des recours. Et on a toujours la crainte, et dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis et en France, on le voit par la procédure dont nous venons de parler, qu'il y ait toutes sortes de recours fantaisistes et que le tribunal constitutionnel soit écrasé par des actions fantaisistes. Le seul qui soit dans une situation identique actuellement, c'est-à-dire avec les recours largement ouverts, c'est celui d'Autriche. Dans tous les autres cas, il y a des mécanismes divers qui font que ne peuvent arriver devant le tribunal que les affaires importantes et qui méritent de l'être.
Donc un filtre en quelque sorte. Pourtant, oui. Là, vous venez de le dire à l'instant, le nombre d'affaires traitées par le tribunal suprême est assez réduit.
Oui, alors justement, on pourrait dire que puisque les recours de ce type sont libres, il pourrait y avoir de ces recours fantaisistes. Je touche du bois, mais jusqu'ici, les recours en matière constitutionnelle n'ont jamais été des recours fantaisistes et ils portent, au contraire, extrêmement bien argumentés. Ça tient peut-être à la compétence des avocats et puis surtout au sentiment qu'il ne faudrait pas gâcher la chose. Mais le risque existe et il existe dans d'autres pays. Il existe par exemple en Italie où il y a une possibilité d'action directe devant la Cour constitutionnelle.
Le titre de loi qui instaure le tribunal suprême dit que le tribunal suprême statue les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés donc par la Constitution qui est énoncée auparavant. Est-ce que ça veut dire que c'est principalement des affaires d'atteinte aux droits et libertés ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
C'est vrai. Eh bien, c'est un peu... Alors là, on peut faire une comparaison avec le Conseil constitutionnel français, et d'ailleurs avec les autres juridictions constitutionnelles, et aussi avec la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Les droits qui sont principalement invoqués dans ce cas-là, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété fait l'objet de recours très fréquents, les recours de fréquents à partir du minimum que j'ai indiqué, comme d'ailleurs devant la Cour européenne, comme d'ailleurs devant beaucoup. Donc le droit de propriété, et puis alors les droits individuels, mais sur ce point, il faut croire que peut-être que les systèmes monégasques n'en donnent pas lieu, des recours extrêmement rares, notamment actuellement devant la Cour de Strasbourg en matière constitutionnelle, enfin en matière de respect de la Convention européenne. Il y a beaucoup de recours concernant le droit de la défense dans les procès. À ma connaissance, il n'y a pas eu de recours portant sur cette matière devant le tribunal suprême. Essentiellement le droit de propriété, mais également, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à Monaco, les droits détenus par les étrangers, en ce qui concerne par exemple les expulsions d'étrangers ou des situations de ce genre. Alors là, il y a eu quelques recours qui invoquaient les dispositions législatives particulières existant dans ce domaine.
Quels sont d'ailleurs vos liens avec la Cour européenne des droits de l'homme ? Est-ce qu'il y a certains, d'ores et déjà, certaines affaires sur lesquelles vous ne pouvez statuer ou
vous avez raison de poser cette question, car jusqu'ici, du point de vue officiel, la principauté de Monaco n'étant pas membre du Conseil de l'Europe, puisque la Cour européenne dépend du Conseil de l'Europe, non pas de la communauté, bien entendu, vous le savez bien. Donc, il n'y avait pas de recours qui invoque la Convention européenne. Néanmoins, il arrivait que cette convention fût invoquée, non pas comme texte directement applicable, mais comme un principe général du droit, comme consacrant des principes généraux du droit, car il a toujours été admis que les juges constitutionnels, indépendamment de la lettre de la Constitution, invoque à titre de jurisprudence des principes fondamentaux qui sont reconnus dans le monde entier. On l'a donc déjà fait à ce titre-là. Il n'empêche que désormais, la principauté de Monaco a été reçu au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire parmi les 45 membres du Conseil de l'Europe, il y a à peu près un an, et que par conséquent, désormais, elle devra appliquer de façon plus directe, plus constante, les dispositions de la déclaration européenne. Mais elle applique déjà les dispositions en matière constitutionnelle, les dispositions de la Constitution qui a tout un titre qui concerne les droits des individus. En matière administrative, elle applique également ces dispositions plus les principes généraux dont j'ai parlé. La différence va se produire, elle risque peut-être d'entraîner une augmentation du nombre des recours, mais à mon avis, en tout cas à mon avis à titre personnel, je peux le dire, la différence est minime puisque ces droits sont déjà consacrés et par la Constitution de Monégasque de 1962 et par notre jurisprudence dans divers domaines.
Justement, à propos de votre jurisprudence, est-elle très différente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français sur le fond ?
Il est certain que la jurisprudence du tribunal suprême est influencée sur le plan de la doctrine, si on peut dire, par le Conseil constitutionnel français, comme elle est influencée sur le plan de la doctrine par la jurisprudence du Conseil d'État en matière administrative. Mais elle a ses possibilités d'autonomie complète à partir des textes qu'elle applique ou de la jurisprudence qu'elle a déjà rendue. Et il est arrivé à plusieurs reprises, nous ayons rendu déjà des décisions qui ne sont pas conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français. Par exemple, l'année dernière, nous n'avons pas suivi sa jurisprudence sur l'intelligibilité des lois. Le Conseil constitutionnel, maintenant, à plusieurs reprises, a considéré que lorsque la loi est confuse ou comportait une certaine absence d'intelligibilité, elle était considérée comme contraire à la Constitution. Nous avons écarté un moyen de ce genre tiré de la rédaction pure et simple de la loi.
Et de toute manière, je crois savoir que les droits constitutionnels monégasques sont assez proches des droits constitutionnels français.
Bien entendu, actuellement, c'est une donnée qui est mondiale et on rencontre de la plupart des États, même hélas, dans ceux qui ne respectent pas du tout, des droits identiques issus de la déclaration de 89, c'est vrai.
Pour revenir à vos fonctions à vous, Monsieur Drago, vous n'exercez pas de fonctions juridictionnelles en France, vous exercez essentiellement des fonctions d'enseignant. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à exercer des fonctions juridictionnelles, de passer de l'autre côté de la barrière,
ah,
si je peux
oui.
me permettre ?
Ah, mais certainement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect clinique de la fonction enseignante, c'est-à-dire que, de même que les professeurs de médecine gardent quand même des places dans les hôpitaux, les professeurs de droit aimeraient beaucoup pouvoir rendre la justice, et bien voilà une possibilité qui m'a été donnée, et je dois dire que j'ai beaucoup de chance de ce point de vue, car on peut reprocher quelquefois aux juristes qui sont exclusivement des universitaires de ne pas avoir assez de contact avec la vie réelle et avec la vie juridique réelle dans des procès. Et bien là, justement, c'est une grande chance d'avoir à rendre la justice pour quelqu'un qui enseigne le droit.
Et vous pourriez encore entrer au Conseil constitutionnel français.
Je ne le souhaite pas particulièrement.
Pourquoi pas ?
Peu importe, enfin, non, mais on ne sait pas, enfin, nous verrons.
D'accord. Monsieur Drago, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes académicien, évidemment, élu en 1990 et président de l'Académie en l'an 2000. Vous êtes juriste et que vous êtes, entre autres, président du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco. Merci d'être venu dans ce studio.
Merci à vous. Thank you.